Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Chaque semaine, je lis et avec vous, je partage les ouvrages qui m'auront permis de quitter la surface de la Terre, les ouvrages qui m'auront flanqué une claque, fait réfléchir, donné du beau ou du doux, du tendre ou du grand, de l'intense solaire ou du sombre, bref. Pour y arriver le plus fort que je peux, je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs et puis, et le truc en plus de Rock & Page, il est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer en toute subjectivité ô combien assumée, des émotions de lecture par d'autres émotions. Histoire aussi d'essayer de continuer de dire qu'il est complètement stérile, de cloisonner les genres et les gens. On peut avoir envie de lire un livre en écoutant un titre de musique et sans être un grand lecteur non plus, et basta, ya. Au sommaire de ce numéro, un roman noir tout récemment sorti à la Manufacture des Livres. Son auteur Lilian Batelot est à mes côtés en studio et ça c'est vraiment une grande chance. Bonjour Lilian.
Bonjour.
Nous allons ensemble causer de Simple Mortel, votre dernier et splendide dernier roman, solaire roman noir. Il y sera question de village, de solitude, de force incroyable, de corruption, d'amour et d'espoir. Et laissez-moi essayer tout droit entre les oreilles de vous envoyer quel genre d'effet surpuissant et long a eu votre roman sur moi.
Thank you.
carrément, oui, carrément. Ça fait tellement longtemps que je vous avais pas envoyé un Radiohead de derrière les fagots pour vous dire la chair de poule au dedans et au dehors à la lecture de ce roman noir, là, celui de Monsieur Lilian Batelot, qui est avec nous, avec moi, aujourd'hui dans Rock'n'Page, pour son tout dernier roman sorti en janvier à la Manufacture des Livres et qui s'intitule Simple Mortel et qui est quelque chose comme votre 16e roman. Autant le dire tout de suite, Monsieur Batelot, vous n'êtes pas un jeune premier sur la scène littéraire. Alors, vous allez vous coller à l'exercice un peu périlleux de nous expliquer de quoi il est question dans Simple Mortel. Comment vous le présentez-vous, ce roman ?
C'est très difficile. Si je savais le présenter en quelques mots, j'aurais pas mis 2 ans pour écrire 450 pages. Quoi. Mais disons que je crois que c'est une histoire d'amour. Tout ce que j'écris, c'est une histoire d'amour. Bon, il n'y a pas que de l'amour. c'est une histoire de colère aussi. C'est une histoire de communion entre les gens, de communion avec les éléments, avec sa nature. Et il y a aussi une question de révolte, je pense, qu'il est question d'une rencontre avec une personne, avec un gars qui est véritablement révolté par ce qu'est le monde moderne, quoi. Mais pas révolté comme un petit militant. Il est révolté comme un être humain, qui voit l'inhumanité qui gagne du terrain. L'inhumanité qui s'exprime aussi dans le rapport avec le monde, avec les choses, avec les falaises, avec les montagnes, avec les arbres, avec les sangliers. Et ça le met hors de lui.
C'est ça.
Met hors de lui, mais avec une certaine tranquillité quand même. Parce que lui, il a trouvé sa parade. Il a trouvé sa parade et il a su créer un nouveau rapport avec le monde. Un rapport plus harmonieux, peut-être.
C'est ça. Alors, si on veut mettre des prénoms sur les personnages, un lieu, etc., quand on ouvre le roman, on rencontre Nicole, qui est une femme, on va dire, qui doit avoir entre 45 et 50 ans. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai imaginé.
Oui.
Et très étrangement, non, ça arrive à beaucoup de monde, mais en fait, elle quitte Montpellier. Ses enfants sont grands, elle est divorcée, elle les a grosso modo élevés seuls, comme beaucoup de femmes. Et elle va dans l'Aude, dans un village, mais alors un tout petit village que vous avez appelé Malissa. Elle y va pour son premier poste d'institutrice. Elle vient d'avoir le concours et ça va être son premier poste. Donc, on la voit, elle part pour une nouvelle vie, en somme. Et alors, ça va être une nouvelle vie qui va dépasser ce qu'on peut imaginer. Elle va rencontrer ce Louis, cet homme qui ne recule plus. Il a pu le faire, rien n'est manichéen dans votre roman, mais qui ne recule plus face à ce qu'il est et qui se donne l'exigence et les moyens de vivre tel que lui souhaite le faire, c'est-à-dire réellement, en fait. Et donc, Louis et cet homme qui ne fait qu'un avec la nature, donc ça fait de lui, on va dire, si on est obligé dans son mode de malade de poser des étiquettes, ça fait de lui un écologiste qui se bat pour ce genre de valeurs-là. Louis a un passé un peu obscur, un peu sombre. Ça fait partie de la complexité et la beauté de ce personnage. Il a fait quelques années dans la Légion. Il s'en est mal sorti, en tout cas jusqu'à une sorte de mort et puis une renaissance. Et évidemment, dans ses activités, dans son activisme militant écologiste du moment, il va être, mais ça, on dévoilera pas tout, la proie tellement facile, en fait, pour choisir un coupable autour d'une histoire de barrage qui ne veut pas, évidemment, qu'ils se construisent. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Et puis, Lilian, au cœur de la tourmente, il y a cet amour incroyable que Louis et Nicole, un amour torride, en plus, éperdu. et ce n'est pas tous les 4 matins dans la littérature que l'on laisse des personnages, alors excusez-moi par avance, mais plutôt vieillissants. J'ai passé la barre des 40 ans, donc je m'autorise à le dire. C'est pas souvent qu'on les laisse s'aimer de la sorte. Est-ce que cela faisait partie de votre projet initial, cette sensualité qui est d'ailleurs tout à fait cohérente avec la présence aussi forte de la nature ?
Je suis fasciné par ce que vous venez de dire. J'aimerais tellement pouvoir parler de ce que j'écris de cette manière-là.
Chacun son
boulot. Je suis complètement fasciné. Au point que j'ai perdu de vue la question que vous venez de poser.
La sensualité. Allons jusqu'à la sexualité.
La sexualité, oui, puisqu'il y a des scènes où elle est bien présente. Ça ne faisait pas partie du projet, non. Disons que ça s'est imposé. Ça s'est imposé et il fallait que cet amour, pour expliquer tout ce qui va se passer ensuite, soit plus qu'un amour intellectuel, qui est une dose vraiment, comment dire, sensuelle, une dose charnelle, et qu'elle soit puissante. Parce que pour que cette fille, comment dire, s'abandonne comme ça et s'extirpe, je dirais, à toutes les aigreurs qu'elle a pu accumuler dans sa vie jusque-là, parce qu'elle n'a pas eu de chance, quoi. Elle n'a pas eu de chance, et puis elle s'est laissé un petit peu, comment dire, porté par des événements puissants qui étaient de s'occuper de ses gosses, qu'elle en avait trois, ça prenait tout son temps, elle était seule, etc. Donc, elle n'a pas vraiment respiré jusque-là. Et elle se retrouve un peu désemparée quand ses trois grands partent, parce que voilà, parce qu'elle
a réussi son boulot.
Parce qu'ils partent en fac, parce qu'elle a bien fait son job, et où ils se retrouvent loin, parce qu'ils vont sur Paris, parce que le père est là-bas, qui se rend compte, le père, maintenant qu'il existe, qui a pu, parce qu'il était seul et qui devait se, qui a pu avoir une brillante carrière et qui a donc des sous, elle est fauchée, enfin bon, voilà. Donc elle a vraiment beaucoup, elle est à un point de sa vie où elle a vraiment besoin de repartir sur quelque chose d'autre, et quelque part elle est disponible. Et les circonstances, dans le fait que là, qu'on est en nature, a horreur du vide, elle va trouver sa place. Elle va pouvoir trouver une place dans le monde qu'elle n'avait pas vraiment trouvée jusque-là pour elle-même. Parce qu'elle avait un rôle, elle a joué un rôle social, un rôle maternel, etc.
Mais qui est aussi un carcan.
Elle n'a pas pu exister pour elle-même. Et là, elle va pouvoir exister, se dire, mais bon, voilà, je suis quelqu'un qui vaut la peine, je ne m'aimais pas beaucoup, finalement, je ne suis pas si mal, et je peux vivre, j'ai le droit de vivre, et j'ai le droit d'être heureuse.
C'est ça, et alors donc, ce grand champ d'espoir, mes amis, Ludo, sache-le, après 40 ans, peut avoir une sexualité totalement débridée. On marque une pause pour la dire autrement, cette sensualité solaire que vous nous offrez dans Simple Mortel, Lilian Batelot. Legendary of Tigerman, aujourd'hui dans Rock and Page, pour vous dire tout en musique et sans les mots, toute la sensualité, toute la force physique qui unit Louis et Nicole dans le dernier roman de Lilian Batelot, aujourd'hui à l'honneur chez nous, roman qui s'intitule Simple Mortel et qui est sorti en janvier à la Manufacture des Livres. Lilian Batelot nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Alors oui, en somme, ce personnage Louis, cet ancien légionnaire, ce militant radical, parce qu'il n'est pas militant radical, il est un homme radical. Cet homme droit qui trouve la vie et le refuge dans l'amour, les corps, parce qu'il n'y a pas eu que Nicole dans la vie de Louis, et puis la nature, et puis et surtout dans le faire, il va rendre la vie à Nicole. Comment est né ce personnage de Louis, qui est aussi, pour la police, un coupable idéal, qui est aussi très sombre, cassé parce qu'il a vécu dans la Légion et dans l'après-Légion. Est-ce que c'est... Honnêtement, Lilian, est-ce que c'est un rêve, ce personnage, ou est-ce qu'il s'inspire de quelqu'un que vous avez eu la chance de croiser ?
Il s'inspire de plusieurs personnages que j'ai pu rencontrer, certains étant des hommes, d'autres étant des femmes.
Tout à fait.
C'est un personnage qui, à la fois à quelque chose de très viril comme ça, oui. de très masculin, mais en même temps, il est très féminin par beaucoup de côtés, quoi. Il a une sensualité qu'on ne prête pas généralement aux hommes virils, qui ne doivent pas pleurer, qui ne... Voilà. Lui, il est partagé.
Il est transgenre, oui, dans son genre. Oui, tout à fait.
Oui, complètement.
Il assume totalement ce qu'il est.
Si on veut. Et les filles qu'on trouve dans ce roman ne sont pas des archétypes féminins non plus. Si ce sont il y a trois personnages féminins, ce sont trois belles femmes, ce sont trois femmes vraiment qui ont beaucoup de beauté. Et je ne parle pas évidemment de la beauté physique, quoi, mais ce sont des belles personnes et qui ne sont pas des archétypes féminins qu'on peut voir dans les revues, enfin ce qu'on nous assène comme ça, quoi.
Elles ne sont pas non plus les faire-valoir de Louis, et ça c'est important.
Ah ben non, bien sûr. Bien sûr, disons que chacun de ces personnages qui joue des rôles d'importance diverse est en fait d'éclairer les autres par ce qu'ils apportent et ce qu'ils en retirent aussi. Il y a une interaction qui est très forte entre
tout à fait.
Tous ces personnages.
Il est question de transmission dans votre roman. Votre roman a beau être noir et emporter tous les codes, Lilian, moi j'ai aussi lu un immense message d'espoir, un immense espoir au cœur même de notre époque malade, malade de l'avoir et du paraître. Avoir, le verbe auxiliaire avoir et du paraître. Cet espoir au cœur du roman noir, c'est aussi ce que vous aviez envie d'être. C'est un roman qui fait l'apologie du faire. Louis est tout le temps en train de faire quelque chose, en fait. Et il n'est pas du tout dans le paraître, en fait. Il est vraiment dans ça. Il est dans l'être et le faire.
Bien sûr, oui. Et je trouve que c'est une façon d'être justement complètement fondamentale, quoi. C'est en se retrouvant soi-même, exactement ce qu'a pu faire, comme on vient de le dire, l'autre personnage féminin, Nicole, qui se retrouve, qui se rend compte qu'elle existe et qui ne se soucie plus. Alors qu'on peut voir, elle ne le dit pas de manière claire, mais on peut voir que jusque-là, elle était très sensible au regard des autres, à ce que les autres pensaient d'elle, qu'elle était une femme admirable, qu'elle s'occupait bien de ses petits, que ceci, que cela. Donc ça, c'est aussi du regard social, quoi. Et là, elle va sortir de ce regard social et se dire, je suis quelqu'un et je vais essayer de faire vivre cette personne plutôt que de la museler sans cesse, quoi. Et c'est ce qu'elle va finalement rencontrer dans cette histoire.
Tout à fait. Alors, c'est votre construction de roman repose, fait jouer pour nous, lecteurs, et c'est une très belle chose. Tous les rouages du roman policier, le suspense va être intégral jusqu'à ce qu'on comprenne d'abord. Il y a plusieurs choses. On va comprendre d'abord le passé de Louis. Ensuite, on va comprendre en quoi il peut devenir comme ça un témoin, une proie aussi facile pour la police avec ce personnage à l'intérieur de ce qu'on va dire la police, mais ça serait plutôt la gendarmerie d'ailleurs, de ce personnage secondaire, celui de Fanny, qui est aussi un personnage dont vous avez parlé et qui est absolument magnifique. Alors, vous faites alterner des chapitres assez courts qui donnent un rythme haletant au récit. Ce sont soit des chapitres qui expliquent le passé de Louis, soit l'enquête policière qui avance, soit la narration portée par J.E., celui de Nicole, et en l'occurrence, il s'agit d'un texte. D'un texte qu'elle écrit d'abord pour qu'il soit publié, d'un texte que finalement elle écrit parce qu'elle se dit « il faut que moi aussi je m'impose cette rigueur, il faut que j'aille au bout de cette écriture, il faut que j'aille au bout de ce texte pour moi, pour Louis, pour tout le monde, pour notre amour, pour cette histoire de transmission ». Et ce texte-là, il va avoir une importance. Elle s'excuse en permanence d'écrire mal, Nicole. Et du coup, ça donne une surpuissance à cette histoire d'écriture, Lilian Batelot. Moi, j'ai forcément vu une histoire de poupée russe. J'ai forcément vu vous à l'intérieur de ce message-là. Est-ce que je me suis trompée ?
Ben non, bien sûr, j'y suis. Je suis dans comment dire, tous mes personnages. Et ce qui est troublant, c'est que pour comment dire, donner de la chair aux personnages les plus noirs et les plus moches, je suis obligé de puiser en moi, parce que c'est la seule réserve que j'ai pour trouver quelle part d'humanité peut être aussi sombre. Je crois, je ne sais plus... qui a dit ça? C'est que le bien et le mal n'est pas une ligne qui coupe l'humanité en deux comment dire, parties, avec d'un côté les bons, de l'autre les mauvais, mais coupe chaque humain en deux.
Tout à fait.
Avec une partie bonne et une partie mauvaise, pour dire les choses de manière un peu simpliste et un peu manichéenne. Mais c'est alors bon, j'essaie de mettre le meilleur de moi dans les personnages solaires et de mettre le pire de moi dans les personnages noirs, dans... Bon, parce qu'on a deux sombres contes dans cette histoire-là.
Tout à fait,
bon,
tout à fait.
Il y en a aussi
à
dire quelques autres.
Dieu merci d'appartenir à la police. Mais...
oui, ça non, ça c'est par hasard, ça pourrait être ailleurs. oui, de toute façon, je crois que en réalité, l'auteur ne peut puiser l'humanité dont il va nourrir ses personnages qu'au sein de lui-même. Bon, au sein des films qu'il a pu voir, des livres qu'il a pu lire aussi, mais qui finissent par nous constituer chacun, voilà, qui font des parties de nous. Et effectivement, c'est vrai que c'est plus agréable parfois d'aller puiser dans ce qu'on a de bon pour en nourrir ses personnages que dans ce qu'on a de pire. Mais ça peut être aussi jubilatoire.
Tout
ça peut être une façon, comment dire, d'exorciser tout ça, de dire bon, voilà, j'ai ça, mais je sais que c'est là.
Au moins, c'est sorti là. Lilian Batelot, merci infiniment pour votre roman en tout premier lieu, si fort et à l'effet si puissamment long sur moi, ce genre de roman qui reste après la lecture, auquel on repense quotidiennement, comme à cette femme flic, Fanny, héroïque elle aussi, qui se sent proche intimement de Nicole une fois qu'elle a lu, pour les besoins de l'enquête, son texte. Bref, merci Monsieur Batelot. Merci aussi d'être venu aujourd'hui dans l'émission. Vous ne coupez pas à la question de Rock and Page, c'est-à-dire quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer votre roman?
Alors, j'ai choisi un titre qui n'est pas une photocopie, mais qui est une transposition, et où presque chaque parole pourrait résonner dans un écho bizarre avec l'histoire de Simple Mortel. C'est une chanson qui est interprétée par Bourvil et qui s'appelle « Le petit bal perdu ».
Très bien, on l'écoute tout de suite.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Voilà, c'était Bourvil, choisi aujourd'hui par Lilian Batelot pour vous parler de son dernier roman, Simple Mortel, tout récemment paru à la Manufacture des Livres. Écoutez, c'est pas compliqué. Si vous avez envie d'un récit qui va vous tenir en haleine, d'un noir corset doublé d'un polar, si vous avez envie d'ouvrir les yeux sur la force solaire de cet homme qu'est Louis Lacan, le personnage central de ce roman, ce personnage qui est un écologiste, mais pas idéologique, non, mais un écologiste pur qui vit la nature comme un tout dont il fait partie et qui représente tout ce qu'il est, si vous avez envie d'ouvrir les yeux sur le fait que des solitudes peuvent se rencontrer et s'aimer, se faire renaître, même à 50 piges et pas seulement à 20 ans. Si vous avez envie de comprendre à quel point tous nos systèmes institutionnels sont corrompu et hypocrite et qu'il est parfois vain de vouloir faire la justice, en tout cas la lumière, mais que la justice peut être ailleurs. Si vous avez envie de plonger dans cette écriture au tanin si fort, viril, qui n'est pas synonyme de macho, s'il vous plaît. Si vous avez envie de regarder que le salut peut passer pour nous par le faire et l'être alors que nous agonisons obèses dans l'avoir et le paraître, alors vraiment, procurez-vous Fissa, simple mortel de Lilian Batelot. Cette émission touche à sa fin. Merci à Ludo en régie, à la réalisation de Divergence FM, à la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous, même heure, même place, la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos fers, de vos êtres. Je vais essayer d'en faire autant. Je vous laisse en compagnie de Villeneuve et Morando quand ils rencontrent le trio Vacarme. C'était pour le festival Yé que cela se produisit. Pour continuer de vous dire juste encore un peu Simple Mortel, le dernier roman de Lilian Batelot paru tout récemment à la Manufacture des Livres. Allez, à tout bientôt.
Merci Marie-Pierre Soriano.